Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Lionel de la Roulière vous présente La Voix des Notaires. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Maître Gapet, notaire à Nogent. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur.
Maître, lors de précédentes émissions, vous aviez abordé la question du legs et du don que un auditeur avait prévu dans son testament. Je pense que le sujet est assez vaste et que vous pourriez peut-être nous donner d'autres précisions sur ce sujet.
Oui, parce que j'avais fait la distinction entre une donation et un legs. Donc, c'est vrai que très schématiquement, donc le don s'est fait de son vivant et le legs s'est fait par voie testamentaire. Hein. Et comme je disais dernièrement, il faut pas faire n'importe quoi et il faut pas désigner n'importe quel organisme sans être sûr que la libéralité que l'on veut faire aille jusqu'au bout et, voilà, et que ses effets soient complets. Alors, c'est vrai que nous, notaires, on est très souvent confrontés à des problèmes de personnalité juridique, de savoir est-ce que la personne qui a été désignée, personne morale qui a été désignée dans le testament, est-ce qu'elle est d'une part apte à recevoir les dons et legs, et deuxièmement, est-ce qu'elle a la capacité, et est-ce qu'elle a la reconnaissance d'utilité publique qui lui permet d'être exonérée des droits de mutation à titre gratuit, qui en l'occurrence sont de 60%.
Voilà.
Oui. Donc, c'est vrai que s'il y a un problème d'interprétation, eh bien, c'est le juge qui tranche. Et dans ce cas-là, il va essayer de retrouver la volonté du défunt dans le cadre d'un testament. Oui. Ce qui n'est pas forcément facile et que les juges n'ont pas non plus vocation à se substituer à la volonté du défunt. Et donc, on risque souvent de se retrouver avec un testament qui devient inapplicable si la personne n'a pas été déterminée.
Voilà.
Alors, il existe, et là on va se baser essentiellement sur un cas très précis, il existe des fondations... puisque nous sommes à Radio Grand Ciel, je ne pourrais pas résister à l'envie de vous citer la fondation qu'on appelle la Fondation des Monastères, par exemple, qui est un organisme, si vous souhaitez faire bénéficier une communauté religieuse, et sachant que, un, elle n'a pas forcément l'utilité publique et surtout elle n'a pas forcément la reconnaissance juridique, eh bien dans ce cas-là, eh bien vous pouvez très bien faire un don à la fondation en disant que c'est pour telle communauté.
Voilà, c'est ça. C'est donc une précision importante.
Cas, pourquoi ? Parce que cette fondation, elle a pour but d'aider les différentes communautés religieuses qui existent en France.
Voilà. Oui, oui.
Donc cette fondation, elle est habilitée, elle a la reconnaissance d'utilité publique et donc elle peut ensuite reverser ce qu'elle reçoit, après avoir pris ses frais de fonctionnement bien évidemment, elle peut reverser ce qu'elle a reçu à la communauté qui a été désignée.
Voilà.
Alors, cette fondation, comme je dirais, elle n'a pas forcément vocation... Elle a aussi vocation plutôt à aider d'une façon très générale toutes les communautés, puisqu'en fait, ça s'étend d'une part à l'entretien des bâtiments, qui souvent sont des bâtiments assez vastes et souvent historiques, mais ça va aussi dans le paiement des charges sociales, donc dans la gestion
de tous les jours. Du courant du quotidien qui est importante.
Voilà. Cette fondation donc permet ensuite de faire bénéficier la communauté qu'on a voulu favoriser.
Voilà. Alors que si on avait précisé uniquement la communauté elle-même,
le legs n'est pas applicable immédiatement, ou alors il faut passer par le juge pour faire reconnaître le legs.
Ah oui, c'est ça. Oui. Ça complique quand même beaucoup
voilà.
de choses.
Alors, ce mécanisme, il existe là parce que je vous ai cité cette fondation, mais vous avez d'autres fondations qui sont exactement dans le même système, dont la plus connue évidemment la Fondation de France, bon qui a aussi un autre but puisque c'est une but aussi de création de fondation. La Fondation de France, on peut très bien dire, je lègue à la Fondation de France pour tel organisme. Alors évidemment, là encore, faut pas dire n'importe quoi. Il faut toujours qu'on reste dans le cadre de quelque chose qui
soit dans la liste
voilà,
de la Fondation de France. Oui, absolument.
Voilà. Bon. Alors, si on se retrouve devant un cas où, quoi qu'il arrive, le testateur a mal rédigé son testament et on se retrouve vraiment dans un cas où on ne peut pas appliquer le testament, eh bien, il existe un autre mécanisme qui peut permettre de faire bénéficier un organisme à part entière. Et c'est l'article 788.3 du Code général des impôts qui est en réalité un article relativement récent puisque il date, alors là j'en prends mes notes parce que je n'ai pas ça par cœur, c'est la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.
D'accord.
Ah oui, c'est cet article 788.3 du Code général des impôts, il dit quoi ? Il permet quoi ? Il permet que les héritiers, donataires ou légataires, donc vous voyez que ça marche aussi pour les donations, soient exonérés de tout droit de succession pour les dons faits sur le montant de leur legs au profit de la fondation reconnue d'utilité publique ou au profit d'une fondation. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez, une fois que vous êtes légataire, dire, eh ben, moi, cette somme-là ou telle somme, eh bien, je vais la donner directement à l'organisme qui, lui, est reconnu d'utilité publique. Et, dans ce cas-là, eh bien, ça va être déduit de l'actif. Et donc, on va pas payer de droit de succession dessus.
Voilà. Oui, oui. C'est quand même important.
Voilà. Mais, attention. Plusieurs précisions. D'abord, premièrement, ce don doit être effectué dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de la succession.
D'accord.
Donc, il ne faut pas le demander un an après. Deuxièmement, il faut qu'il soit fait en pleine propriété. Et enfin, il faut annexer à la déclaration de succession un reçu spécifique qui est délivré par l'organisme, donc attestant que le don a été fait et qu'on peut bénéficier donc de ces fameux articles du Code général des impôts.
Bien. Merci de ces précisions. Nous allons avoir notre pause musicale et nous reprendrons immédiatement après vos explications plus détaillées sur cet article des impôts. Alors donc poursuivre sur ce legs qui est exonéré grâce à cet article des impôts que vous avez précisé.
Alors c'est pas le legs qui est exonéré, c'est le don sur succession, ce qui veut dire qu'en réalité c'est la personne qui reçoit qui décide de faire un don sur ce qu'elle reçoit et plutôt que de recevoir plutôt que de recevoir et d'ensuite faire un don,
voilà.
Eh bien en fait, elle est exonérée sur ce qu'elle va donner sur la part de la succession.
Très bien. Oui. Bon, bravo. C'est une précision importante.
Et il faut faire des calculs
parce
que ça peut quelquefois être plus intéressant que de faire le don. Enfin, c'est forcément plus intéressant plutôt que de faire le don par derrière. Ensuite, bien évidemment, si vous êtes assujetti à l'impôt sur l'ISF, eh ben ça va jamais
rentrer dedans. Oui, ça va diminuer de temps.
Ça va pas le gonfler.
Oui.
Il faut faire le chiffrage pour savoir exactement où on va.
Mais c'est important.
Mais c'est une approche qui peut être intéressante et que c'est un mécanisme que moi-même j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément.
Oui, hein. Donc c'est vrai, on entend parler de mécénat, mais au fond, on ne sait pas exactement ce que ça recouvre.
Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner là-dessus. je voulais, pour résumer, le plus important, c'est quand même de bien rédiger et de savoir à qui on veut donner et de bien rédiger le bénéficiaire, de bien
donc
le désigner.
Donc c'est important d'aller voir son notaire.
Mais que si jamais c'est pas bien fait, sachez que celui qui reçoit, alors là, on s'adresse plus à celui qui fait le testament, mais à celui qui reçoit, et donc, eh bien, il peut aussi respecter, entre guillemets, l'esprit qu'il pense de celui qui lui a donné, ou tout simplement lui-même décider de faire le don, même si son auteur, c'est-à-dire celui qui lui a légué ses biens, n'avait jamais pensé à le faire.
Voilà, oui, c'est ça. Ça peut venir de lui-même, en fait, recevant une certaine somme ou un certain patrimoine, décider d'en donner une partie exonérée d'impôts, ce qui est important.
Voilà. Et puis alors surtout, bien évidemment, quand vous affectez une partie d'un héritage à une donation, eh bien, évidemment, on rentre toujours dans le cadre de savoir si on a dépassé ou pas ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on appelle les quotités disponibles sur la succession.
Oui, ça c'est nécessaire, oui.
Voilà, parce que même dans ce cas, si vous voulez, la donation sur succession rentre dans le cadre des rapports et des réductions éventuelles dans le cadre de votre propre succession. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous recevez une somme très très importante et que vous décidez de la donner sur succession, évidemment que ça rentre quand même dans le calcul de votre quotité disponible, ça rentre dans le calcul de ce que vos enfants auraient pu avoir droit.
Oui. Oui,
je ne sais pas si je me fais bien comprendre, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des conséquences fiscales, mais il y a aussi des conséquences civiles sur cet acte-là.
Voilà. D'accord.
Alors, oui. je le disais dans une dernière émission, donc il faut consulter le guide des dons et legs pour savoir si l'organisme que l'on souhaite faire bénéficier figure dans la liste.
Oui, c'est une première recommandation importante de savoir que l'organisme est bien déclaré d'utilité publique.
Et voilà, et surtout est habilité à recevoir les dons et les
legs. Et habilité à recevoir les dons.
Oui, voilà. Et que surtout, il faut qu'il soit bien déterminé et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Par exemple, si vous dites, par exemple, je veux léguer tous mes biens à une association pour les animaux.
Oui.
Bah, on voit bien ce que vous voulez dire. Mais
oui.
Les associations pour les animaux, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une.
Oui.
Est-ce que c'est l'une, est-ce que c'est l'autre? Bah, c'est pas applicable, ça.
Voilà, oui, c'est ça, oui. Ah. Mais alors, à ce moment-là, c'est le juge qui va dire, les animaux, bon, ça va être la SPA ou ça va être X ou Y.
Alors, dans l'absolu, oui. Alors, en pratique, je répondrai de rien. Parce que dans ce cas-là, à mon avis, le testament est inapplicable.
Oui.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand un testament est inapplicable, quand un legs est inapplicable? Eh bien, si le legs est inapplicable, eh bien, on va revenir aux règles de dévolution normales, c'est-à-dire la dévolution par le sang. C'est-à-dire que c'est vos héritiers par le sang qui vont hériter de la somme qui n'aura pas pu être léguée à l'organisme que vous avez mal désigné.
D'accord, oui. Oui, donc ça fait quand même une procédure supplémentaire.
Ben c'est surtout que ça devient inefficace.
Oui.
Et que dans ce cas-là, bien, vous pouvez vous retrouver avec une succession qui n'est absolument pas du tout ce que le défunt aurait souhaité.
Oui, c'est quand même un peu dommage.
Et c'est quand même un peu dommage.
Merci, maître, de toutes ces précisions. Je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Je vous rappelle que c'était maître Gapé qui a fait cet exposé. Et notre réalisation technique était de Claude Casals.